Bonjour, j'avais une question concernant, donc je suis à l'INSA, il y a aussi une mission handicap, je suis pas sûre qu'elle fonctionne toute pareille. Vous prévenez tous les enseignants de l'handicap de l'élève ou pas? Parce qu'en fait, moi je le connais qu'a posteriori, c'est-à-dire qu'une fois que les examens sont passés et qu'il y a eu des problèmes, on m'annonce que l'étudiant en fait était 10. Ou autre chose que j'ai pas le droit de savoir. Après, je peux comprendre qu'il y ait certaines informations auxquelles j'ai pas accès, parce que ça peut être des informations médicales plus personnelles. Mais celles où on pourrait nous mettre des choses en place en tant qu'enseignant, du coup, je les apprends qu'après. Et comme je les ai en plus pas au second semestre, eh ben, pour ma matière, en tout cas, j'ai pas pu l'aider en fait à acquérir ses compétences et les connaissances dont il aurait besoin.
Alors après, effectivement, toutes les structures handicap fonctionnent de manière différente. Néanmoins, il se peut aussi que l'étudiant n'ait pas fait de demande spécifique, qu'il ait eu l'impression qu'il pouvait gérer la situation et qu'il se rend compte au moment de son examen que finalement, non, il n'arrive pas à gérer et qu'il se retourne vers la mission handicap à ce moment-là pour demander une aide. Ça, c'est une possibilité. Et après, la mission handicap ne peut pas dire le handicap aux enseignants.
Après, en fait, ce qu'il y a, c'est que les secrétariats sont bien informés, hein, forcément, pour les terminaux, la mise en place du temps supplémentaire, etc. Après, nous, on dit bien, en tout cas, nous, les médecins, quand on préconise les aménagements, on dit bien que c'est aux étudiants aussi de se signaler auprès de leurs enseignants, quoi. Il y a énormément de chargés de TD, il y a énormément d'enseignants, de turnover. C'est important que ce soit les étudiants qui se signalent aussi auprès des enseignants. Et c'est sûr qu'ils le font pas forcément. Il y en a même, on le sait bien, hein, qui ne demandent même pas d'aménagement pour les contrôles continus, alors qu'ils y auraient droit, mais qui en ont besoin vraiment pour les terminaux, pour les contrôles continus, ils veulent pas être comme ça stigmatisés en TD non plus, et du coup ne se signalent pas forcément. Donc,
on est bien sur une population d'adultes, donc on considère qu'il y a des choses qu'ils doivent faire par eux-mêmes. On est plus sur du secondaire où c'est les parents qui font les démarches. Là, l'étudiant, il est majeur, il doit être proactif dans ses demandes et voilà, dans la relation avec l'enseignant.
Bonjour, je m'excuse déjà parce que je suis arrivée un petit peu en retard, donc si jamais je pose une question qui a été dite au début, désolée. Juste deux remarques, en fait, je voulais savoir au niveau de l'université de Lyon si les étudiants étaient vraiment au courant qu'ils pouvaient donner leurs notes, premièrement. Parce que moi j'étais à Lyon, je savais même pas que c'était possible.
C'est pas le cas partout. Effectivement, l'un a donné l'exemple de Lyon 3, mais c'est pas le cas dans tous les établissements. Certains établissements ne prennent pas les notes des étudiants.
D'accord.
Il peut y avoir des preneurs de notes ou... Pardon ? Oui, voilà, on demande pas. Ça dépend des structures, mais sinon, je crois qu'il y a quand même une communication au niveau de Lyon 3 qui est faite. Voilà. En début d'année, les collègues passent dans les amphis, ils informent les étudiants. Après, voilà, on est sur une période aussi où les étudiants on magazine beaucoup d'informations et il se peut que ça passe un peu à la trappe.
Oui, au tout début d'année, oui, c'est vrai que... Parce que Lyon 1, Lyon 2, je sais pas si les étudiants sont vraiment tous informés ou pas.
Lyon 2, ils le font pas. Ils le font pas forcément.
Ouais. D'accord, parce que c'est vrai que je pense qu'il y aurait quand même pas mal d'étudiants volontaires pour prêter ces notes. À mon
Alors,
avis, ce serait pas
mal. On a les collègues qui veulent rajouter quelque chose.
Effectivement, à Lyon 2, il y a une proposition qui est faite aux étudiants et c'est diffusé en début d'année. Il y a des tracts, en fait, on leur donne des flyers pour proposer effectivement qu'ils donnent leurs notes s'ils sont normaux lecteurs ou qu'ils n'ont pas de handicap spécifique et qu'ils prennent bien leurs notes, ce qui est autre chose. Et pour informer les étudiants qui ont besoin des notes, qui sont en situation de handicap, qui peuvent faire appel à ce service via la mission handicap. Après, le problème qui se pose, c'est que souvent la mission handicap va se fixer sur des référents, en fait, dans les facultés, dans les composantes, et qu'après, c'est toujours la question de la redescente de l'information, quoi. C'est que la mission handicap, par exemple, va prévenir les doyens. Ben, s'il y a un doyen qui prévient pas les directeurs de filières, etc., l'information s'arrête et stop, quoi. Ouais. Donc, c'est aussi toute la question de la coordination de l'information au sein des établissements. À Lyon 2, pour le coup, ça existe, mais je dis pas que c'est diffusé parce qu'il y a parfois des rouages qui sautent, quoi, tout simplement. Et une petite précision sur la question des prises de notes. J'ai appris récemment par la coordinatrice de la mission handicap de Lyon 2 qu'il y avait une baisse drastique à Lyon 2. Du nombre d'étudiants qui voulaient bien donner leurs notes. Parce que, et ça c'est une chose qui va être importante, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, il y a beaucoup d'étudiants dans la communauté étudiante qui se disent, tiens, mais il y en a, je vois pas où est son problème, quand ils ont un collègue qui est en fauteuil roulant, qui a un trouble, un handicap visible. ils comprennent, ça les dérange pas. Mais quand c'est un trouble 10, comme ça se voit pas, ils se disent que le collègue est en fait un peu un resquilleur. Ils savent pas que le collègue a quand même un bilan qui lui a permis d'avoir son aménagement. Et du coup, il y a un repli très fort des étudiants, un repli individuel et une baisse de la solidarité étudiante. Donc le problème, en fait, c'est que les missions handicap ont souvent énormément d'organisation, de structures pour permettre l'aide aux étudiants en situation de handicap, mais ce qui va se poser ensuite, c'est que ça relève aussi de la participation de la communauté, des personnels, communauté étudiante, etc. Et ça, c'est un autre point justement qui, voilà, il faut que le travail des missions handicap soit relayé, ce qui n'est pas toujours gagné.
Et j'ai juste une autre remarque et peut-être proposition à faire par rapport à l'identification des élèves qui ont un trouble 10. Effectivement, au niveau médical, normalement, je pense que, étant donné le secret professionnel, vous n'avez pas le droit d'avertir directement les enseignants, c'est soit pour les jeunes enfants, aux parents de le faire, ou aux étudiants directement. Mais sachant qu'à la fac, on a un nombre important de représentants pour les TD, les TP, les cours magistraux, etc., je pense quand même que c'est pas forcément évident d'aller voir chacun de ces intervenants pour spécifier qu'on a un trouble, qu'on a besoin d'un aménagement, etc. Peut-être qu'il faudra envisager, dans ce cas-là, de faire quelque chose de plus direct, en proposant soit de signer un accord comme quoi l'élève, l'étudiant est d'accord pour que l'information concernant son 10 soit diffusée auprès du corps enseignant, et ce serait peut-être plus direct, non ? Je ne sais pas, c'est une proposition.
Alors, ça, c'est valable pour tous les étudiants. On a des étudiants qui ont des troubles visuels pour lesquels il va falloir adapter des cartes, des choses comme ça. Donc, c'est valable pour tous les étudiants. L'étudiant, il est majeur, il est grand, il rentre, il va préparer son insertion pro. S'il n'est pas à même de dialoguer avec son enseignant en disant « Attention, moi, je suis suivi par la mission handicap, j'ai des aménagements, ou mettez-vous en rapport éventuellement avec la mission handicap », on ne peut pas être derrière chaque étudiant, surtout que je vous dis, c'est valable pour tous les étudiants qui ont besoin d'aménagement. Là, il y a les troubles 10, mais il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres aménagements à mettre en place. Donc, il faut vraiment. L'étudiant, il est acteur de son projet. Et s'il ne sollicite pas forcément son chargé de TD, parfois, c'est qu'il a des raisons. Il a peut-être trouvé des stratégies, des choses mises en place. Et parfois, il le sollicite en direct sans nous le dire. Et des choses se mettent en place. On découvre bien après. Enfin, il y a des tas de choses. Nous, on a des étudiants qui travaillent qu'avec les enseignants. Et on ne les voit jamais. Jamais. Alors qu'il y a des étudiants pour lesquels on est tout le temps dans l'interface, au moins dans un premier temps. Et puis après, dès qu'ils ont fait connaissance avec leur enseignant, ben ça se passe formidablement bien. Mais c'est valable pour tous les étudiants.
Très rapide. Quand j'enseignais au lycée ou maintenant à l'université, on a de plus en plus de cas déclarés de 10. Alors, on ne sait pas si c'est forcément des 10, parce que moi, je sais juste qu'ils ont des tiers-temps ou des aménagements. Est-ce que c'est parce qu'il y a de plus en plus de dyslexiques diagnostiqués, ou est-ce qu'il y en a de plus en plus qui font la démarche de faire des demandes d'aménagement, ou est-ce que c'est juste le hasard, là où j'ai enseigné, qu'il y en avait plus qu'il y a quelques années ?
C'est difficile de répondre. Hein.
Ouais.
Oui, c'est vrai que déjà, est-ce que c'est des 10 hein, ouais. Alors, voilà. Il y a plein d'aménagements qui ont du temps supplémentaire, une salle en petit comité, et qui n'ont pas un trouble 10. Hein. Ils peuvent avoir n'importe quelle pathologie, que ce soit psychique, viscérale, moteur, n'importe quoi. Donc déjà, voilà. Ensuite, après, oui, je pense que forcément, il y a 20 ans, on posait pas des diagnostics comme on en pose maintenant. C'était peu connu, c'était peu détecté. Maintenant aussi, je pense qu'on arrive aussi de plus en plus à les détecter précocement, parce que les enseignants sont aussi de plus en plus sensibilisés hein, dans le primaire pour identifier ces enfants qui vont présenter un retard dans la lecture, etc. Après, je pense qu'il y en a aussi peut-être qui acceptent de plus en plus à l'université, parce que justement on arrive aussi à mettre en place de plus en plus d'aménagements pour eux. Et du coup, des aménagements d'études et tout, et du coup, ils arrivent aussi de plus en plus à accéder aux études supérieures. Nous, on le constate, on a de plus en plus d'étudiants en situation de handicap, en fait, à l'université, hein, que ce soit pour tous les types de handicap, hein, de toute façon, dans tous les cas. Donc, avant, pareil, hein, des aveugles et des sourds, il n'y en avait pas qui accédaient à l'université, quoi. Donc,
Oui, juste en complément, deux choses sur la liberté de dire ou pas son handicap. Enfin, moi, je trouve que dans la pratique déontologique qu'on a, nous, à la mission handicap, on n'a pas à dire le handicap de la personne. Ça fait partie de la loi, d'ailleurs. Par contre, c'est intéressant, c'est de dire les conséquences du handicap sur la situation personnelle, singulière de l'étudiant dans son parcours d'études. Hein. Tu l'as rappelé, chaque parcours d'études est différent. Et là où c'est intéressant et là où il devient un vrai partenaire, l'étudiant, c'est quand il est capable de dire à tel et tel enseignant ou tel et tel intervenant, bah voilà, même s'il n'est pas capable de dire quel type de handicap il a, parce que c'est difficile pour lui, on pense aux autistes ou on pense à d'autres types d'handicaps psychiques qui sont difficiles à dire, hein, au-delà même des 10, c'est plutôt de dire à l'enseignant, voilà, moi j'ai un accompagnement par la mission handicap qui est justifié et ça a telle conséquence sur mes apprentissages. Et à partir de là, ça devient intéressant pour les deux de construire quelque chose en termes pédagogiques qui va avoir du sens et surtout qui va être concret. Parce que l'enseignant en face, il va dire, bah, comment je peux t'aider, moi ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce que tu ne sais pas ? Est-ce que tu as des difficultés de lecture, de mémorisation, etc., etc. Et là, ça devient intéressant. Donc, c'est plutôt sur cet angle-là qu'il faut travailler, non pas sur le handicap ou la dénomination du handicap, mais plus sur les conséquences dans le parcours d'études de l'étudiant. Et puis, je voudrais dire aussi quelque chose par rapport au fameux temps majoré, parce qu'on parle de temps majoré à l'université, c'est comme ça qu'on doit le nommer d'ailleurs. C'est vrai, hein, je suis d'accord avec toi, c'est qu'est-ce qu'on met dans ce temps majoré, comment on apprend à l'étudiant à l'utiliser à bon escient, à y mettre des choses concrètes, à faire des pauses, à ce que ce soit un moyen aussi de redevenir attentif à ce qu'on fait, etc. Parce que la grande caricature des étudiants 10, je suis désolée de le dire, mais quand ils arrivent dans notre bureau, nous on est un peu le bureau des temps majorés, enfin des tiers-temps, c'est-à-dire qu'ils arrivent en disant « je veux mon tiers-temps ». Ils commencent comme ça souvent. Alors, à partir de là, ben, qu'est-ce qu'on fait avec lui ? C'est la seule réponse pour l'instant dans le secondaire qui a été donnée quasiment, c'est d'avoir du temps supplémentaire. Mais au-delà de ça, c'est comment nous, on travaille aussi en amont avec le secondaire et aussi nous, en aval à l'université, pour l'autonomiser avec des outils spécifiques. On parle d'antidote ou de logiciels de reconnaissance ou de synthèse vocale. Nous, à Strasbourg, on est en train d'expérimenter des situations de paires, ce qu'on appelle des paires émulation par rapport à des outils. On a un étudiant qui utilise tel logiciel, il va travailler en binôme ou en trinôme avec un autre étudiant qui l'utilise pas encore ou qui l'utilise pas bien et qui va montrer comment il l'utilise, comment ça lui est utile dans son parcours d'études, quel raccourci il prend pour utiliser ce logiciel. Et là, on voit bien que c'est pas simplement je prends la notice et je me débrouille tout seul, mais j'ai quelqu'un qui est aussi un étudiant et qui va l'utiliser dans son parcours d'études, même s'il est pas dans la même discipline, mais ça peut être intéressant pour moi. Donc c'est travailler sur ces vraiment sur de la pair-émulation.
Les étudiants, il faut aussi les informer et les accompagner. On a une circulaire d'aménagement pour les examens qui est très explicative par rapport à l'usage des outils personnels. Il suffit de leur répéter plusieurs fois. Nous, on leur dit, le médecin leur dit, on leur redit. Il y a des composantes qui le mettent sur les convocations. On a des procédures aussi par rapport à si quelqu'un fraude dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait. Donc, il faut vraiment informer l'étudiant. Tu as ton outil parce que tu en as besoin, mais par contre, à côté de ça, il y a des règles à respecter. Et oui, effectivement, il y a un surveillant qui est là pour voir ce qui se passe sur le PC, il y a plein de choses qui peuvent se passer, donc oui, il y a des règles. C'est dans ce cadre-là, c'est pas juste j'ai besoin de mon ordinateur et je vais avoir mon ordinateur.